donné l'occasion de venir présenter mon travail ici. Et merci aussi à l'Université Toutes les Cultures de m'accueillir. Merci à M. Chaline d'être là. Et merci à Fatira Bouzidi, qui est la graphiste qui a mis le livre en page. Et j'avoue que c'est un travail considérable qui m'a beaucoup touchée et qui apporte énormément au livre. Alors, merci à mes amis, merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont venues. Et merci à Vincent de m'avoir soutenue aussi pendant tout ce temps. Alors, contrairement à ce qui se passe d'habitude, où on part d'une question et on cherche des réponses ou des débuts de réponses et qu'on va investiguer dans les fonds d'archives, ici, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le fonds d'archives qui s'est d'abord présenté. Ce sont les descendants de ces grandes familles qui ont donné au CE Alex et à Jean-Yves Empereur pour y être étudiés ces milliers de documents. Jean-Yves Empereur, qui a fondé le CE Alex en 1990, avait une relation privilégiée avec les derniers représentants de ces notables. C'est pourquoi ils ont été les récipiendaires de ce trésor. Alors, ce fonds d'archives avait comme origine les Ogem, les Sinano et les Ayoub. On y trouvait tout ce que la vie produit comme document, du plus simple au plus complexe. Par exemple, aussi bien une liste de courses qu'un projet de loi, une lettre d'amour qu'un procès en héritage, un mot griffonné « Réveille-moi demain matin » que le testament d'un riche rentier, des centaines de cartons d'invitation, des factures, des livres de comptes, etc. Au-delà de ces documents produits par la vie, on trouve aussi des cahiers de souvenirs, ceux de Janice Sinano, avec d'une part la saga Zogheb, source capitale pour la connaissance de la famille sur trois générations, et les mémoires d'une petite fille rangée, où elle évoque la vie alexandrine de sa jeunesse. Il y a aussi ceux de Marie Fraca Ayoub, la mère de Charles, en deux cahiers, ses souvenirs qui sont très intéressants parce qu'elle a vécu les événements de 1882 dont nous reparlerons, et un autre cahier qui est plutôt un livre de conseils pour la jeune génération. On trouve les souvenirs de Victor Sinano, très succincts et inachevés, mais essentiels parce qu'il parle de l'implantation de la ville à Alexandrie. Il y a aussi les 60 petits carnets de mairie de Zogheb de 1924 à 1984 qui font l'objet d'un chapitre entier dans le livre. Quand j'ai pris connaissance de tous ces cartons d'archives, c'était en 2002. Je travaillais comme documentaliste au CE Alex à peu près 3 mois par an. Et il se trouve qu'ils sont arrivés au centre à une période où je me trouvais par hasard et par chance pour moi. La première chose qui m'a interpellée en parcourant le fond a été de voir les liens avec la France. J'étais très surprise, par exemple, de trouver des cartes postales de Dieppe en 1900. C'était le premier étonnement. J'étais en Égypte, mais ces documents me ramenaient chez moi. Dieppe, Varangeville, Velay-Rose. Et là, j'ai mordu à l'hameçon et je me suis plongée avec enthousiasme dans les cartons. Donc, près de 7000 documents, je découvrais tout. J'ai passé des centaines d'heures à rassembler les pièces du puzzle dont j'ignorais l'image finale. À rassembler les morceaux dans mon esprit, je suis partie d'une connaissance zéro parce qu'à cette époque-là, la seule connaissance que j'avais de l'Alexandrie dite cosmopolite, c'était à travers les livres de Laurence Durel, son quatuor d'Alexandrie. Alors je dois préciser que 99% des documents sont en français, donc ça c'était aussi un autre étonnement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois retracer les grandes lignes de l'histoire d'Alexandrie. L'Égypte, grâce à Mohamed Ali, s'était beaucoup modernisée. Il avait fait appel à des compétences européennes, il avait facilité et sécurisé leur implantation, et Alexandrie était devenue une ville plus européenne qu'égyptienne, au point qu'on a parlé d'Alexandria ad Europam, Alexandrie tournée vers l'Europe. Les gens sont venus y chercher et parfois y faire fortune. Ce qui a enrichi notablement le pays a été la culture du coton. Le premier producteur mondial était les États-Unis, mais la guerre de sécession a favorisé l'essor du coton égyptien. D'autant plus que Mehmet Ali, sur les conseils de Jumel, avait cultivé un coton d'une qualité exceptionnelle. Il y a aussi une chose essentielle à connaître pour la compréhension de l'histoire, c'est la création des tribunaux mixtes. Ils furent créés en 1876 pour remédier à des abus et des injustices commis au détriment des Égyptiens. Les Européens qui étaient sous la protection des consuls, enfin les consuls de leur pays, étaient souvent hors d'atteinte. Ils avaient des droits et peu de devoirs, et en cas de problème, il était difficile de les poursuivre. La création de tribunaux mixtes a permis de rétablir une justice, et c'était une atteinte à la souveraineté de l'État, puisque les tribunaux étaient constitués pour moitié de magistrats européens, et l'esprit général était plus pro-occidental que pro-égyptien. Les tribunaux mixtes étaient compétents pour les litiges entre étrangers et nationaux, et entre étrangers de nationalités différentes. les tribunaux indigènes restaient compétents pour les litiges entre Égyptiens. L'Égypte, jusqu'à la Première Guerre mondiale, était une province de l'Empire ottoman. Elle émergea progressivement de la tutelle de la Turquie qui s'affaiblissait, en même temps qu'elle devenait la proie de l'Angleterre, elle passa d'une dépendance à une autre. Le Khédive Ismaël s'étant lourdement endetté auprès des puissances par des prodigalités, des dépenses somptuaires, surtout liées à la construction du canal de Suez et les réjouissances qui ont lieu au moment de l'inauguration. Les dépenses, donc, l'Angleterre et la France, qui étaient les créanciers de l'Égypte, instituèrent en 1876 la caisse de la dette. C'était un État dans l'État, une ingérence dans les affaires égyptiennes, puisque sous prétexte de surveiller les dépenses, il s'immisçait aussi dans la politique. En 1882, des émeutes sanglantes mirent Alexandrie à feu et à sang. Les Européens s'enfuirent par bateau vers l'Europe. Quelques jours plus tard, soi-disant pour protéger leurs intérêts et pour la sécurité des Européens, l'Angleterre bombarda Alexandrie. C'en était fini de l'indépendance de l'Égypte. Alors ici, vous avez une image. Après les bombardements de 1882, ça se passe à la place des consuls, qui est la grande place d'Alexandrie avec la statue équestre de Mehemet Ali, qui a d'ailleurs miraculeusement échappé au bombardement. Elle seule est restée debout. Et on voit là les Anglais qui se font la tambouille sous le regard un peu ahuri des autochtones, qui sont un peu interloqués. Donc Alexandrie est une ville à part. Elle était largement occupée par des Européens, principalement des Grecs, des Italiens, des Français, des Arméniens, des Russes. Elle avait jusqu'en 1930 une grande autonomie dans la gestion de la ville. Elle était dotée d'une municipalité qui s'occupait des affaires. Alors pour cette question, je vous renvoie à la thèse de Robert Hilbert, Alexandrie 1830-1930, histoire d'une communauté citadine. Il a montré comment Alexandrie avait un statut particulier et comment s'est constituée, en même temps qu'était créée la municipalité, une sorte d'élite urbaine internationale qui s'organisait de façon autonome par rapport au pouvoir central. Et parmi les membres de cette municipalité, on trouve les noms de Zoghev, Ménache, Zervoudaki, Salvago, Benaki, noms que nous retrouvons de décennie en décennie. C'était, je cite Robert Hilbert, un réseau de familles souvent d'origine méditerranéenne, levantine ou juive, souvent alliées à des familles locales pour faire de la ville le domaine privilégié de leur puissance. Être notable signifie avoir des responsabilités dans la cité. Alors tous ceux dont nous nous occupons ici n'ont pas toujours exercé ce rôle, mais ce qui les unit, c'est leur ancienneté dans la ville, leur mode de vie, leur habitus au sens de Pierre Bourdieu, leur quartier, les clubs auxquels ils sont affiliés. Ce qui compte, c'est leur capacité à donner des réceptions, leurs bonnes manières et dans une moindre mesure, leur richesse. Alors, qui sont ces notables? On trouve une centaine de noms construits de génération en génération et on pourrait dire qu'il y avait une adéquation entre eux et les affiliés au yachting club qu'ils appelaient le sailing, qu'ils pratiquent les sports nautiques ou non. C'était le lieu de prédilection de nos notables. Ils y organisaient aussi des réceptions. Alors ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des régates organisées, c'est le concours du 27 novembre 1886. Donc c'était encore le Khédive sous le haut patronage de son Altesse le Khédive. Et les petits drapeaux, ce sont les drapeaux des participants. Alors vous avez en bas, enfin ici là, vous avez donc Zoghev, vous avez Georges de Zoghev, je vois pas bien, donc Gabriel de Zoghev, il y a Zervoudaki, Sinadino, Carver. Enfin, tous ces noms qu'on retrouve de génération en génération et qui ont tenu la ville pendant un certain temps. Alors, oui, Carver, je voulais signaler qu'il y a quelques noms à consonance britannique dans le notable, mais en fait, ils venaient de Smyrne. Ce n'étaient pas des Britanniques comme les Britanniques étaient occupants. Ils étaient là au même titre que que nos notables alexandrins qui étaient grecs ou syro-libanais. Alors, ils habitaient essentiellement le quartier grec. Alors, ici, vous avez un plan. Alors, ils habitaient le quartier grec. On appelle le quartier grec, vous devinez pourquoi, parce qu'au départ, ce sont les Grecs qui y ont habité. Alors, on peut faire la comparaison de ce quartier avec Neuilly, sont des belles maisons, un espace aéré, des jardins, des jardiniers, des domestiques qui s'affairent autour, des belles autos, des chauffeurs et des nurses avec des beaux landaus anglais. Donc ici, vous avez un quartier. Ce plan est d'un plan de Nico Ossoff, c'est de 1902. Donc le quartier grec est en cours de... est en cours de réalisation. Vous voyez là en haut sur les quais, qui sont, la corniche est dessinée, elle n'est pas complètement installée, mais il y a eu la municipalité avait voté des crédits pour la corniche qui n'existait pas. Là, du coup, ça a dû être en les votes à la municipalité ont dû être faits en 1900-1901. Et donc c'est un beau quartier bien aéré. Alors si je cherche la maison mais je ne sais pas si je vais la trouver là. Non, elle n'est pas encore là. Donc ce quartier est en cours de... Alors, ce que vous voyez aussi, là, vous voyez en bas, Kommeldijk. Alors, ça, c'est un quartier qui jouxte le quartier grec, qui a des petites ruelles, mais ce sont des gens, ce sont des ouvriers, des gens des petits métiers. C'est un quartier, pour nos notables, assez mal famé. Et jamais nos Grecs, nos notables, ne pénètrent dans cet univers. C'est juste à côté, mais on n'y pénètre pas. Alors voici, donc ça c'est un plan de 3 ans plus tard, 1905, c'est le plan God. Donc le quartier s'organise, il est un peu plus dessiné, plus construit, ça avance. Alors d'est en ouest, vous avez ici la rue de la Porte Rosette, c'est la grande artère qui deviendra la rue Fouade, qui a changé de nom à la Révolution, qui s'est appelée la rue El Oreia, la Liberté, mais en fait on l'appelle toujours la rue Fouade. Et alors là, je voudrais vous montrer... rue de la Porte Rosette. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez que ma flèche, ici, là, vous avez la maison, ce qu'on appellera la maison Sinano. Alors là, elle a deux entrées, donc on voit une entrée sur la Porte Rosette et l'autre entrée sur cette rue qui est la rue Neroutsos. Bon. Alors, au début, quand j'ai commencé à travailler sur les documents, c'était un peu compliqué parce que je voyais l'adresse 75 rue Rosette. Et puis après, je voyais rue Neroutsos, donc je pensais qu'ils avaient déménagé. Mais non, tout simplement parce que là, cette entrée-là a été bouchée par des magasins, donc l'entrée était faite là. Donc ils ont changé d'adresse, mais pas changé de maison. Alors, aujourd'hui, le quartier grec a tout de même bien changé, mais il reste encore quelques belles maisons debout. Ici, vous avez la maison Salvago. Alors les Salvago, alors c'est devenu le centre culturel russe. Les Salvago étaient une puissante famille grecque. Michel Salvago était le président de la communauté grecque. Il était omniprésent dans le milieu des affaires. D'ailleurs, ça lui a posé quelques soucis. Il y a eu quelques procès un peu contre lui, puisque c'était un peu la mainmise sur beaucoup d'affaires à Alexandrie. Et Argine Ben Salvago, donc son épouse, c'était la notable parmi les notables grecs. C'était vraiment une très puissante famille qui était entre Alexandrie et Athènes, parce que Benaki, ils étaient autant... alexandrins qu'athéniens, peut-être qu'ils étaient grecs de cœur et peut-être que pour les affaires c'était plus Alexandrie. Il y a un musée Benaki à Athènes et voilà. Enfin, donc maintenant aujourd'hui c'est le centre culturel russe. Et voilà, quand vous rentrez dans la maison Salvago, vous avez en face de vous, dans l'étage, cette magnifique verrière. Et voilà, Argine Salvago, donc, dans sa maison, avec Venizelos. Ça, c'est en 1915. Il était venu à Alexandrie. On lui a fait un accueil triomphal. Il faut dire que la Grèce, enfin, Alexandrie est une ville essentiellement grecque. Donc, le cœur est très grec à Alexandrie. Et donc, quand Venizelos est arrivé, ça a été une émeute d'enthousiasme dans la ville. Alors. La question que je me suis posée, évidemment, à la découverte de ces documents, c'était comment les traiter, qu'est-ce qui pouvait sortir de tout ça. Alors, il y a un personnage qui a tout de suite éveillé mon intérêt, c'est Charles Ayoub. On ne demande pas à un historien d'avoir de la sympathie pour son sujet, mais quand la cohabitation risque d'être longue, il vaut mieux tout de même avoir un peu d'intérêt et de sympathie pour le sujet qu'on va avoir avec soi pendant longtemps. Mais alors, je me suis posé la question de savoir comment organiser cette masse où il y avait tous ces documents. Alors, il y avait donc deux directions en fait qui étaient difficilement conciliables parce que j'avais d'une part des tas de sujets, des tas de personnages d'un côté, et de l'autre, j'avais la vie de Charles Ayoub, et la vie de Charles Ayoub, on la suit du début jusqu'à la fin, pas de la naissance, mais pratiquement jusqu'à la mort. Alors, j'aurais pu mêler l'existence de Charles Ayoub avec les autres sujets, parce qu'il a des liens avec absolument tous les autres sujets, mais si j'avais fait ça, on aurait perdu le fil de l'histoire de Charles Ayoub. Alors, l'histoire de Charles Ayoub, c'est l'histoire du dernier temps de l'Alexandrie cosmopolite, et c'est aussi, à travers lui, en filigrane, on voit l'histoire de la prise d'autonomie de l'Égypte. Alors, tous ces éléments disparates devaient se transformer en récits. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord le portrait d'une certaine société, celle de la haute bourgeoisie Alexandrie du XXe siècle, à travers certains thèmes, l'amour, le mariage, la famille, la vie sociale, la vie domestique, l'argent, la mort, et d'autre part, l'histoire de l'émancipation de l'Égypte, vue au prisme de l'itinéraire d'un homme qui, à cause et grâce à ses fonctions, y a participé. Donc, les documents concernent essentiellement trois familles, les Ogheb, les Sinano et les Ayoub. Alors, commençons par les Ogheb, qui sont les plus notables, les plus nombreux et une des familles les plus anciennes de la cité. Donc, notre histoire commence avec le comte Joseph de Ogheb et de Catherine d'Ahan. Ils étaient originaires de Damas. La famille fut anoblie par le roi de Sardaigne, donc ils avaient la nationalité italienne. Joseph de Ogheb était aussi consul du Portugal et son frère Michel était consul du Danemark. Alors, Joseph avait trois frères. Deux, Selim et Neguib, restèrent célibataires, ne se quittèrent jamais, vécurent ensemble et partagèrent la même tombe. Et Michel, une descendante dont nous aurons à parler, enfin peut-être pas dans le cadre de cette conférence, mais dont je parle dans le livre, parce qu'il y a eu un procès en héritage qui a fait beaucoup de bruit. Donc, nous n'avons pas d'image de Joseph, du comte Joseph. Sa petite fille le décrit Et en tout cas, voilà. Voilà son épouse, la comtesse Catherine d'Ahan. Là est ici avec sa fille Marie dont nous parlerons et la petite Christine. Christine dont nous reparlerons aussi. Alors ici vous avez une carte postale de 1906. Elle a l'air de rien comme ça. Elle est du 27 juillet 1906. Elle est adressée à Monsieur et Madame Sinano qui sont en vacances à Vichy. Et le texte dit « Bonne arrivée, vous embrasse de tout cœur » et elle est signée de Catherine. Alors en fait, cette carte postale, quand je l'ai découverte, c'était vraiment très émouvant parce que Catherine de Ogheb ne savait ni lire ni écrire, donc elle savait uniquement signer de son nom. Donc l'écriture que vous voyez ici, Catherine, est écrite d'une façon appliquée et tout simplement. Et le texte, c'est pas elle qui l'écrit, tout simplement parce qu'elle ne savait pas le faire. Donc, c'est une lettre qui est partie de Lucerne. Les nonotas fréquentaient beaucoup la Suisse. Alors ici, vous avez... ça se passe au jardin Antoniadis. Il y a un grec qui s'appelait Antoniadis, John Antoniadis, qui avait un somptueux palais. Il a fait construire un somptueux palais à Alexandrie, avec un jardin immense, plein de sculptures. Il en a fait cadeau à la municipalité. Et donc, et la municipalité faisait beaucoup de réceptions. Alors là, vous avez une photo qui fait très penser à La Recherche du Temps Perdu et Proust, c'est-à-dire tout au long de mes recherches, il y avait des analogies incroyables avec le monde décrit par Proust dans la Recherche du Temps Perdu. Donc ici, donc au jardin Antoniadis, vous avez à gauche. Marie de Ogheb qui viendra Marie Sinano. Et au milieu, trônant comme il se doit, vous avez donc Argine Salvago. Et à ses côtés, à sa gauche, c'est une Benaki, je ne sais pas si c'est sa sœur ou sa belle-sœur, si. Voilà. Et à droite, monsieur et madame Sevastopoulos, qui sont grecs, comme leur nom l'indique. Alors, parmi les enfants de Joseph de Ogheb, alors Joseph et la comtesse, ils ont eu 10 enfants, 3 filles et 7 garçons. Alors, les 7 garçons sont morts assez rapidement, mais suffisamment tard quand même pour avoir eu le temps de convoler. Et il restait 3 filles qui ont vécu très longtemps. Alors, voilà Isabelle de Ogheb. Je vais quand même chercher un petit note. Alors, c'était la gloire de la famille. Elle était mariée à un fonctionnaire, Joseph Mikala Pacha, qui est mort assez tôt. Elle est devenue veuve, elle n'a pas eu d'enfant. Elle était très lancée dans la société. Elle était dame d'honneur à la cour d'appel. Mais comme dit sa nièce, elle était un peu vaniteuse et un peu menteuse. Et le chapitre qui la concerne dans le livre commence par la narration de sa mort, puis l'inventaire de ses avoirs, de son mobilier et de sa garde-robe. Alors là, vous avez toujours Isabelle, mais elle est un peu moins le portrait est un peu moins flatteur. C'est son neveu, Manny Horwitz, le mari de sa nièce, Janice Hidano, qui... Enfin, les Alexandrins étaient très vifs, ils aimaient bien la caricature, ils adoraient, ils faisaient des revues, ils étaient très drôles, ils étaient très ragots. Et donc voilà, Isabelle Mikala. Alors, son chauffeur s'appelait Concetto, elle n'avait pas l'appelé chauffeur, elle l'appelait plutôt son mécanicien. Et le petit roi que vous voyez bondissant, elle était dame d'honneur donc à la cour. Donc le texte dit « Le roi a sauté de joie quand il a reçu la visite de grand-tante Isabelle et de son mécanicien. Il a aussi demandé à tante Isabelle et à son mécanicien quelle était la marque de son auto. » Et donc il y a IM sur l'auto, sont les initiales d'Isabelle Mikala. Donc il y a toute une semaine qui est racontée comme ça, mardi, mercredi, jeudi, en images. Donc Isabelle Mikala. Ici, vous avez une autre fille de Joseph et de Catherine de Zoghem, donc c'est Marie. Marie, elle va nous occuper plus, puisque quand on va parler de la maison Sinano, c'est le pilier de la maison Sinano. Donc là, c'est une jeune fille. Alors, passons aux cousins. On va sauter une génération de Zoghem. Ici, vous avez Max de Zoghem. Il n'y a rien de spécial à dire sur lui, si ce n'est qu'il a épousé Mary Sorsock. Et les Sorsock étaient comme les Benaki, mais c'est une famille qui était à cheval sur le Liban et l'Alexandrie. C'est-à-dire que les Sorsock, ils avaient une somptueuse maison à Alexandrie, et ils avaient une tout aussi somptueuse maison à Beyrouth. Ils étaient autant Beyrouthins qu'Alexandrins. Donc, ça, c'est Alexandre. Alors, ça, c'est Paul de Zoghem qui a eu un destin émouvant. Il était beau et adulé. Janice Hidano le décrit comme la coqueluche de toutes ses amies, le don juan de sa génération, beau comme un dieu, charmant et doux. À Paris, il a été mêlé à des histoires de drogue. Il a eu affaire à la police. Il a connu une sorte d'exil. Atteint de la tuberculose, il a fréquenté des maisons de santé. Il a fini sa vie à Bruxelles. Il est mort en 40, il doit avoir 39 ou 40 ans, et sa famille l'avait mis sous tutelle, et ses dernières volontés sont très touchantes dans sa volonté de dénuement. Et ici, vous avez Henri, son frère, donc trois frères, c'était Max, Paul et Henri. Alors, Henri de Zoghem, il a une vie très mondaine, luxueuse et parisienne. Il a épousé la jolie Odette Retzel. On le rencontre en photo dans Le Gaulois ou dans Vogue. On en parle dans toutes les chroniques mondaines. Mais il fréquenta des personnes douteuses et ruiné, il s'est suicidé. Il est l'auteur de quelques ouvrages, Illogisme, Contraste et Les Maîtres de l'heure, où il passe en revue tous les personnages importants de son époque, c'est-à-dire les hommes politiques, les écrivains, les philosophes, les artistes. Là, vous avez un autre cousin de la même génération, c'est Zike. Quelquefois, c'était très difficile de connaître le vrai nom des gens, parce qu'ils ont des surnoms, des sobriquets, des surnoms, et on ne les connaît que comme ça, et c'est très difficile. Par exemple, j'ai mis plusieurs années avant de savoir que Titine, c'était Catherine. Alors, j'aurais dû après m'en douter, parce qu'elles prennent toujours les prénoms des grands-parents et tout ça, mais plus les gens ont des patronymes luxueux, enfin, et plus les surnoms sont dérisoires. Par exemple, Anisson du Perron, qui ont été à un moment donné les châtelains de Saint-Fargeau, ils s'appelaient Toto et Totote. Bon. Alors, donc, Georges de Zoghem, donc connu sous le nom de Zike. Ce qui frappait chez lui, c'était son élégance en toute occasion. Il était le fils de Jacques de Zoghem et de Marguerite Sinano, et ses parents ont divorcé, ce qui était un scandale pour l'époque, donc on n'en parlait pas, c'était étouffé. Alors, l'argent pour lui a fini par manquer, donc il a été obligé de travailler. Il travaillait sur les champs de courses. Il a organisé à Alexandrie des revues qui étaient célèbres, où les Alexandrins se mettaient en scène avec dérision. C'était un peu des revues dans le genre de ce qu'en font les avocats, c'est-à-dire on parle de soi, entre soi, et c'est souvent très drôle. Il a épousé Mary de Banet. Alors, voilà, donc encore ziqué. Et voilà, Mary de Banet a 17 ans. Alors, Mary de Banet, c'était aussi une fille de notable. Elle était d'origine, sans doute, je sais, plutôt syrienne, enfin, Thyroïde-Banette. Alors, voici Mary, donc l'épouse de Ziqué, avec ses deux enfants. Ici, elle est avec, en bas, c'est Charlie. Charles dit Charlie. Et l'enfant qu'elle tient dans les bras, c'est Bernard. Et on en parlera un peu plus tard. Bernard de Zoghep, c'est un personnage. Ils avaient une relation très fusionnelle. D'ailleurs, elle peut pas quitter son regard de, elle peut pas quitter son regard de son fils. Donc voilà. Donc Bernard est né en 1924. Donc la mode, vous voyez, ce qui se passait en 1924, ça a changé. Donc les cheveux sont courts et la taille basse. Alors, Mary de Zoghem, elle a écrit ses petits carnets tous les jours, de 1924 à 1984. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 60 petits carnets. C'est une mine de renseignements pour la vie alexandrine. Parce qu'ils sont très bien organisés, ils sont très bien faits. J'en ai extrait 3 ou 4. Pour mon livre. Alors là, vous avez, c'est en 1940, je crois. Je ne suis pas sûre. Alors là, Thomas de Marielle, Gamy, non. Non, je pense que. Si, c'est en 1940. Alors, dans mon livre, j'ai extrait celui de 1924, la naissance de son fils, celui de 1956. Pour la nationalisation du canal de Suez, et sinon pour le de 1940, c'est avec la guerre. Et aussi le dernier qui précède sa mort. Donc là, voilà, elle raconte. Mais ils sont très organisés avec le temps, et puis elle note le temps avec les quarts d'heure. Comme ça, on voit un peu le temps qu'elle passe dans une soirée ou dans un thé. En général, les Alexandrins ne s'attardaient pas trop. Ils pouvaient faire 4 ou 5 réceptions dans la journée. Alors là, on voit, c'est pendant la guerre, effectivement, on est le 16 juillet, et il y a eu des alertes à 10h30, 11h30, des bombes qui ont tombé sur Agami. Agami, c'était une plage à côté d'Alexandrie. Bon, alors elle apprend à tricoter des bas, et voilà. Alors là, on est en septembre, donc Benta. Alors oui, je sais pas si je vous ai dit, mais son fils Bernard, elle l'a toujours appelé Benta. Et Benta, en fait, ça veut dire fillette, petite fille, c'est un rapport avec. Donc je pense que ça l'a dû le marquer pas mal et imprimer aussi quelque chose dans sa vie. Donc ils vont à la plage. Ah oui, alors ils vont à la plage et. Dans sa cabine. Alors, les cabines de plage étaient des choses qui étaient. Avoir une cabine, c'était un must pour les Alexandrins. Elles étaient louées auprès de la municipalité et coûtaient relativement cher. Donc, parfois, les locataires les sous-louaient pour un jour ou deux par semaine. Elles étaient partagées parce qu'il y avait une pénurie. Donc, les Alexandrins, ils recevaient pour des pique-niques et c'était pendant l'été des hauts lieux de convivialité, de sociabilité. Alors à droite, on voit. Alors à droite, elle note, c'est la fin du mois de septembre, et elle note les événements qui ont eu lieu importants pour la guerre. Donc les internés italiens, à cause de leur grand nom, sont au camp de Suez. Évidemment, le problème dans cette société-là, c'est qu'il y avait à Alexandrie, il y avait beaucoup d'Italiens, et les Italiens pendant la guerre, ils ont été internés. Alors on pouvait être ami avec quelqu'un, et puis du jour au lendemain, ils devenaient à cause de la guerre, un ennemi. Alors, elle raconte que les Allemands avaient torpillé un bateau avec les enfants et qu'il y avait peu d'enfants qui avaient pu être sauvés. Elle parle aussi du général de Gaulle qui essaie de débarquer à Dakar, mais on lui a tiré dessus, donc il s'est retiré. et des bateaux anglais et français se battent, et De Gaulle est au Cameroun. Bon, je passe, voilà. Alors là, elle parle d'un thé chez Baudreau. Alors ici, Bernard de Zoghem, donc son fils, en 1945. Alors il est né en 1924, et c'était le dernier représentant de la dynastie Zoghem. Il est mort le 14 juillet 1999 à Alexandrie. Il avait demandé la nationalité française, mais il ne l'a pas obtenue, et finit par avoir un passeport syrien. Oui, parce que le problème de beaucoup de gens, c'est comme il faisait partie de l'Empire ottoman, au moment où l'Empire ottoman a disparu, et ben, les gens se sont retrouvés sans patrie, sans nationalité, donc il a fallu se trouver une nationalité, un pays d'accueil. Bon, la plupart du temps, l'Égypte, enfin, leur donnait la nationalité égyptienne, mais quelquefois, les notables ne voulaient pas forcément être de telle ou telle nationalité, parce qu'ils trouvaient peut-être un peu plus intéressant de naviguer avec les avantages de pas avoir trop de marques nationales. Alors, donc, oui, alors Bernard était une personnalité très originale. Il a écrit ses diaries, lui, de 1954 jusqu'à l'année précédente de sa mort aussi. Et une page par jour. Il a écrit des petits opéras drôlatiques dans une langue qui n'existe pas, c'est-à-dire entre français, italien, yougoslave. Il a dressé des dizaines d'inventaires, mais des dizaines et des dizaines d'inventaires qu'il a retranscrits dans des carnets de listes. Et il a vécu modestement de sa peinture, mais il a vécu pas du tout riche, lui. C'était la génération où l'argent commençait à manquer. Alors ça, c'est juste l'instant people. C'est-à-dire que vous avez à gauche, ici, là, Anne de Zoghem, qui est donc la nièce de Bernard et la fille de Charlie, l'autre garçon de mairie. Elle était top modèle, elle avait un succès fou. Et donc là, elle s'est mariée avec Paul Anka. Et à droite, vous voyez Johnny Hallyday. En dessous, vous avez Richard Anthony et Sylvie Vartan. C'était pour le concert de Paul Anka à l'Olympia. Bon. Alors, Paul Anka donc, a épousé Anne de Zoghem. Anne de Zoghem, ils ont eu 5 filles. Anne de Zoghem est morte il y a 2 ans. Elle était née en 1940 ou 41. Voilà. Maintenant, on passe à tout autre sujet. Enfin, toujours la famille, mais nous sommes du côté des Cinano. Alors, les Cinano, vous avez donc Aristide Cinano. Donc, l'ancêtre le plus éloigné était Christian Alexanderson. C'est un marchand danois qui vendait peut-être des fourrures. Sa fille Eugénie épousa Jean-Siméon Cinano. Et ils eurent 5 enfants, Aristide, Christian et 3 filles. Les 3 filles, on ne les connaît pas. Et Eugénie, devenue veuve, elle vint avec un mystérieux monsieur Victor, ses enfants en bas âge, à Alexandrie. Ils venaient de Smyrne. Ils arrivèrent en Égypte en 1821, chassés par les troubles qui ont précédé la guerre de l'indépendance grecque. Alors, Christian Cinano. Alors, donc ça, c'est donc Aristide Cinano avec son suffragis et les fils de son suffragis. Alors, les suffragis, c'est un personnel rapproché, c'est entre un homme de confiance et valet de chambre. C'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est amusant là, de voir la ressemblance entre le père et le fils. Ils sont absolument copie conforme. Aristide. Qu'est-ce que je fais avec cette... Ben non, ça ne va pas du tout, ça. Bon, c'est pas grave. Ça, ce sont les 4 enfants d'Aristide. Faut pas que je me trompe, parce que comme ils prennent toujours les mêmes prénoms... Voilà. Alors, donc, vous avez Marguerite Cinano, Victor Cinano, Christian Cinano et Eugénie Cinano. Alors, Marguerite Cinano, elle a donc épousé Jacques de Zoghem, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'était la mère de Ziké. Victor Cinano, on va le voir un peu plus tard. Christian Cinano, il a épousé Marie de Zoghem. Et Eugénie Cinano a épousé Georges de Zoghem. En fait, 3 Cinano ont épousé 3 Zoghem. Donc voilà, Aristide avec ses deux filles, Marguerite et Eugénie. Bon, voilà maintenant Victor Sinano, c'est son passeport. Donc il était courtier, ce qui était un métier relativement fréquent, courtier auprès de la bourse de valeurs ou courtier la bourse de coton. Il est né en 1855 à Alexandrie. Donc voilà la photo qui est sur son passeport. Alors ici vous avez Victor Sinano avec ses deux enfants, Marietta, qu'on appelle Clélia, en fait elle est connue sous le nom de Clélia, elle s'appelle au départ Marietta parce que sa grand-mère s'appelait Marietta, et à gauche Mani Sinano. Alors Marietta, elle a épousé, Marietta elle s'est mariée avec Anis, en deuxième noce avec Alexandre Anisson du Perron. Ils ont donc été un moment châtelain de Saint-Fargeau, et donc voilà des chasses à cour à Saint-Fargeau. Alors ici vous avez un portrait, un tableau vivant, voilà ce que je cherche. Un tableau vivant qui est mis en scène donc, chez le photographe Nicolas Fettel à Alexandrie. Donc assis en bas, vous avez Raoul Wilkinson, aussi un nom à consonance anglaise mais qui n'était pas plus anglais que les autres. En haut, avec le chapeau melon, vous avez donc Christian Sinano qui va se marier avec Marie de Zoghèbe et qui est un personnage important dans notre histoire. Et ici, juste en dessous, entre les deux, vous avez Félix de Ménage. Et Félix de Ménage, c'est un personnage très important. Il est devenu le président de la communauté juive d'Alexandrie. Disons que les Ménages, c'est un peu comme les Rothschild en France. Alors, les grandes familles juives d'Alexandrie, c'était les Ménages. Et au Caire, c'était les Kataoui. C'était les deux grands noms. Alors, Félix de Ménage, il a eu un fils qui s'appelle Jean de Ménage. Et Jean de Ménage s'est converti au catholicisme et est devenu dominicain. Il est connu, Jean de Ménage. Et pour son père, ça a été assez dur, mais je crois que finalement, il a accepté. Donc, revoilà Christian Sinano avec sa sœur Eugénie à gauche et Marie. Je ne sais pas s'ils sont fiancés ou mariés là, mais en tout cas, ils vont vivre ensemble pendant pas mal d'années. Donc ici, vous avez la famille Sinano dans la maison de la rue Néroux-de-Sauce. Alors, c'est en 1913. À gauche, vous avez Christine. À côté, son père, Christian. Ensuite, sa mère, Marie de Zoghèbe, que vous avez vue tout à l'heure, jeune fille. Vous avez là les deux garçons dont, assis par terre. C'est Henri de Zoghèbe, dont je vous ai parlé. Max de Zoghèbe, dont je vous ai parlé. Et assise à côté, là, Gianni Sinano. Donc, c'était deux sœurs. Et c'est autour d'elles, leur maison, que l'histoire se passe beaucoup. Et c'est Mademoiselle Netta, qui était la gouvernante des enfants, des fils Zoghèbe. Voilà la famille. Cette photo-là, elle a été prise. C'est une photo pour le passeport. Enfin, c'est ce qui est écrit dans l'album. Donc à gauche, Marie de Sinano, Janie, Christine et Christian. Christian est toujours un peu en retrait. Il a vécu vraiment en retrait. Il avait donc ses trois femmes avec lui, qui étaient très pétulantes. Et donc je pense que lui, il était en retrait. Alors voilà, j'aime beaucoup cette image-là parce que c'est une image un peu intime de donc Janie Sinano avec sa nurse, Miss. C'était Miss Carter, mais on l'appelait simplement Miss, et leur chien, Leila. Donc ça se passe aussi dans la chambre. On voit, il y a une caricature là sur le mur. Et en fait, Janie avait plus d'affection pour sa nurse que pour sa mère, mais c'était souvent comme ça. Les nurses étaient tellement proches des enfants que le lien était plus fort avec les nurses. Ici, vous avez Janie Sinano. Là, à nouveau, je ne sais pas qui est le personnage à gauche. Christian, Janie, Christine et Marie Sinano. Alors, la grande affaire, évidemment, des filles, c'était le mariage. Alors, normalement, donc, Christine, elle attendait... Enfin, je pense que la famille espérait, attendait... attendait le mari qui ne venait pas bien. Il y a eu quelques rapprochements avec deux, trois personnages, mais rien ne s'est fait. Et finalement, il y a eu un mariage arrangé et son mari, ça a été Charles Ayoub. Alors, ce n'était pas un inconnu total, puisqu'ils avaient des grand-mères communes, puisque la grand-mère de Charles Ayoub, c'était une Dahan, et la grand-mère de La grand-mère de Christine Sedano était une dame aussi. Bon, enfin, c'était un mariage qui était un mariage arrangé, donc un mariage de raison, mais c'était un très bon mariage. Et ça s'est très bien passé. Et Charles Ayoub était un mari, et elle était très bien aussi. Alors, le mariage s'est donc passé dans la maison Sinano. Alors, parmi les invités de Christine, il y avait des grands noms de la sociabilité alexandrine. Il y avait donc les Ogeb, Zervouillaki, Ménage, Aglion, Sursock, Salvago, Raleigh, la très haute bourgeoisie. Celle qui fréquentait le Royal Yacht Club, le Cercle Mohamed Ali, le Sporting Club et les champs de course. Alors, du côté des Ayoub, on rencontrait plus le monde de notables de la haute administration. Le père de Charles était sénateur. Donc, d'un côté de la mondanité et de l'autre côté, la haute administration. Alors, un an et demi après le mariage de Christine, Janie s'est trouvé un mari aussi, mais c'était encore un mari organisé, enfin, c'était aussi un mariage arrangé. Donc, le mari était Mani Horwitz, c'était un Suisse. Il n'était pas inconnu des Égyptiens, puisque sa tante, Alice de Pfeiffer, était des grands amis des Sinano. Alors, il y avait donc Eddie de Heller, Gustave de Heller et Alice de Heller. C'était aussi une grande famille suisse. Et je crois que c'est Eddie de Heller qui a épousé une princesse qui avait des relations avec la couronne de Belgique. Alors, donc, après leur mariage, les filles ne quittèrent pas pour autant la maison Sinano, puisque la maison Sinano, la maison de la rue Néroutsos, les parents habitaient au rez-de-chaussée, Christine et Charles habitaient au premier étage, et Janie et Mani habitaient à l'étage du dessus. Alors, nous allons faire maintenant. Alors, ça, c'est Mistraille. Donc, Mistraille, c'est une nurse. Elle s'est occupée des enfants Ayoub, donc de Christian et des deux aînés, Christian et Cyril, en 1930, pendant que leurs parents faisaient un grand voyage, des grandes vacances un peu partout. Elle s'en est occupée en Angleterre. Elle a trouvé le logement pour habiter tous les trois au bord de la mer, dans le Sussex. Et la sociabilité commence très tôt chez les Alexandrins. Donc là, vous avez une invitation, c'est en janvier 1929, c'est Johnny Narman qui invite Christian Ayoub à venir à une partie. Et Christian Ayoub, là, il a deux ans et demi. John Narman, je l'ai rencontré. Il est mort maintenant. Mais il m'a appris plein de choses. C'est un homme charmant. Il est mort. Il était né en 1924 ou 25. Et après, il est parti en Suisse. Il est mort en Suisse. Alors ça, c'est Masco. Alors Masco, c'est de la couturière, qu'on appelle Masco au doigt de fée. Elle faisait des travaux de couture pour la maison. Alors là, vous avez donc les trois enfants Ayoub. Christian à gauche, Molly, qui était très célèbre pour ses yeux bleus, et à droite, Cyril. Alors Cyril est encore vivant, on l'a rencontré la semaine dernière. Il est né en 1929, donc il a 90 ans. Et il a eu la présentation du livre à Paris. Et il est venu du Texas pour ça. Et il est encore très vert. Ça, c'est donc Janie qui a un peu changé. Là, voilà mère de famille avec ses deux enfants, Rudy et Dorine. Alors, Dorine vit toujours. Elle est dans le sud de la France. Rudy est mort. Donc, la photo est prise au studio Alban. Le studio Alban, c'est un studio photo très connu à Alexandrie. Alors ça, c'est la suite de la... C'est pour vous donner un peu l'esprit de la maison. Donc là, c'est Janie qui part faire ses courses, mais elle va part avec son sac pour aller... Alors heureusement que maman ne l'a pas fait, elle est venue en bonne santé, car ce matin, elle nous a tous embrassés, elle était très chic, elle a dit qu'elle prend sa bourse pour aller faire sauter avec l'argent de Miss. Enfin, elle est revenue avec sa bourse qui n'avait pas sauté. Elle voulait 40% d'intérêt et on lui a dit « Bokra fel mich ». Alors, tout est bien qui finit bien. Tu m'as dit ce que ça voulait dire « Bokra fel mich », mais je ne me rappelle plus.
Demain, à la saison des abricots.
Demain,
à la saison des abricots.
Voilà, donc. Donc ça, c'est une planche de l'album familial. Alors on voit donc Cyril et Christian, ils sont en tenue de Eton. C'est la communion. Donc bon, il y a des albums photos incroyables dans les archives. Alors les factures, donc je vous parle là toujours de la maison Sinano, de l'ambiance de la maison. C'est une maison de famille, donc ça c'est les factures. Donc les factures, elles étaient payées à la fin du mois. Là, on est en mois d'avril 49, donc 30 avril 49, hop, la facture. Donc c'est des gâteaux, des croissants. La facture, elle vient d'Athénéos. Athénéos, c'est une pâtisserie très célèbre, elle est encore là. Elle faisait partie des institutions Alexandrie, avec Baudreau, Athénéos, Passeroudis. Et dans les, à chaque fois qu'il y a une facture, il y a toujours les bâtons salés. Je pense que les bâtons salés, c'est une institution aussi à Alexandrie, parce qu'il n'y a pas une réception sans bâtons salés. Alors, les Sinano, ils ont donc, on va voir la maison un peu plus en détail tout à l'heure, mais ils ont donc habité, depuis 1908, ils habitaient dans la maison de la rue Nerutsos-B. Je vous ai montré qu'elle avait deux adresses, donc maintenant c'est la rue Nerutsos. Et Manny Sinano est mort en 1948. Janie, sa femme, est partie habiter en Suisse à la mort de son mari. Marie Sinano, la grand-mère, est morte en 1950. Donc, Christian Sinano était mort, lui, en 1937. Donc, il ne restait plus dans la maison qu'un petit cercle. Donc, la maison était plus du tout adaptée à la composition de la famille. Donc, ils ont décidé de déménager. Alors, c'était un peu un crève-cœur pour les enfants, parce que là, c'est Christian Ayoub qui est là. Mais donc, on déménage et c'est Bernard de Zoghem, c'est en juillet 1950, qui est venu faire un reportage photographique pour la veille du déménagement. Alors, la maison Sinano, reportage photographique de Bernard de Zoghem, juillet 1950. Alors, c'est en anglais. Je vais le traduire parce que mon accent anglais est tellement minable que j'aurais honte. Alors, est-ce qu'on va visiter nos cousins un peu et les voir avant qu'ils ne quittent la maison? Alors, moi, je vois bien ce qui se passe là. Je sais pas si vous... Parce que là, on voit bien les étages. Le rez-de-chaussée qui était l'étage des parents, donc de Marie et Christian, le premier étage qui était l'étage de Charles et Christine, et le deuxième étage qui était l'étage de Janie et Manny. Alors, donc ils avancent, let's go, et avançons et faisons la visite. À ce moment-là, on voit la figure de Christian, et le texte dit « Christian paraît un peu suspicieux, peut-être que nous devrions nous en aller. » Alors, « Non, dit Christian, rentrez. » Et installez-vous dans le hall. Mais le téléphone a sonné. Ainsi, nous l'avons suivi jusqu'à la bibliothèque. Voilà. Donc voilà la maison Sinano d'une façon plus visible. Moi, je l'ai connue comme ça. Elle était comme ça. Bon, mais de temps en temps, on voyait de la lumière le soir. Elle devait être squattée certainement. Elle a été abandonnée pendant des années. Moi, je l'ai vue abandonnée. Et puis on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, et puis ce qui s'est passé, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, elle a été détruite, et à la place, il y a un énorme immeuble qui prend tout le pâté de maison, comme une grosse pieuvre. Alors, ils ont déménagé, donc les Ayoub ont déménagé, ils ont commencé par aller habiter rue Salvago, et puis après, ils sont venus habiter avenue de Belgique. Alors, ce que vous voyez là, c'est tout près, hein. C'est tout près du centre d'études Alexandrine aussi. Et donc, ils avaient tout un plan, c'est-à-dire un étage, le premier étage, qui était immense. On leur a donné le plan, et c'est Charles Ayoub qui a aménagé l'intérieur. Alors, oui, je voudrais dire... je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout, mais... Bon... Alors, il y a un point important dans le budget et qui était réservé à la charité. Alors, la société Alexandrine était essentiellement une société de bienfaisance fondée sur la solidarité à l'intérieur de chaque communauté. On donne pour les pauvres, pour les institutions de charité et de toute confession. Alors, cette année-là, Christine a donné aux diverses quêtes et aux mendiants de la porte des églises, à l'œuvre des enfants abandonnés, Philoptokos, les enfants trouvés, la Ligue des Dames d'Hélène, la Ligue de la Traite des Blanches, l'œuvre copte, l'œuvre française d'Alexandrie, l'orphelinat Benaki, Mélissa qui donnait des vêtements aux familles pauvres. Elle cotisait aux jeunes économes, à la Mère de Dieu, pour l'œuvre du repas du midi, le courrier du pauvre honteux, et j'en passe. Et elle-même allait solliciter les gens de son milieu pour placer les billets de tombola. Elle notait les noms des gens et les sommes données, comme ça on connaît la générosité de nos notables. Le plus généreux était Emmanuel Zervoudaki. Bon, alors. Bon, alors nous avons quitté la maison Sinano, déménagé avenue de Belgique. Il ne reste plus au foyer que les Ayoub et leurs enfants. Puis les enfants partent à leur tour. Il n'y a pas d'avenir en Égypte pour eux. Christian ira à Paris, écrira un livre, Artagal, publié par Bûcher et Chastel. Il reviendra à Alexandrie, il épousera Josiane Boulade, une jeune philosophe. Ils auront une petite fille, Christine. Et tous les trois quitteront l'Égypte pour le Canada. Molly, avec son mari Michaud, Angélie et les enfants, partiront s'établir en Suisse. Et quant à Cyril, Mirella et les enfants, ils partiront pour le Texas. Quand tous les enfants seront partis, leur dernière adresse sera un appartement rue Fouad, près du cabinet d'avocat où Charles exerce, en face du cercle Mohamed Ali, où il est affilié et dont il est avocat. Donc ici, vous avez, là, vous avez l'image de donc Baudreau. Baudreau, c'est encore une institution, une pâtisserie-institution incontournable à Alexandrie, salon de thé, traiteur, on allait chercher les gâteaux du dimanche. Et puis en face, vous avez le cercle Mohamed Ali, qui était le plus prestigieux cercle francophone. Les Anglais avaient l'Union Club, mais les Français avaient les francophones avaient le cercle Mohamed Ali, qui était créé au 19e. Il a fermé ses portes comme cercle après la révolution nassérienne et maintenant il a rouvert ses portes comme centre d'art où on y fait des concerts, c'est très actif. Mais maintenant je voudrais venir à Charles Ayoub. Alors Charles Ayoub, il est né en 1897. Ses parents, donc Michel Ayoub, qui deviendra Pacha, était sénateur. C'était un fonctionnaire des douanes. L'origine de la famille était de Damas. Pour Michel Ayoub, et celle de sa mère, Marie Fracas, que nous voyons ici au moment de son mariage. Elle était d'un côté d'originaire de Corse et de l'autre syro-libanaise. Ici, vous avez Michel Ayoub, donc le père de Charles Ayoub. Alors, il devient. Le père de Charles. Donc, il deviendra pacha et sénateur. Il était fonctionnaire des douanes. Je l'ai déjà dit. Ici, vous avez la dernière image de Michel Ayoub, donc le père de Charles. Il est en vacances à Bethmery, c'est en 1930, en octobre. Et donc, il était très malade, il est parti très malade, et puis il est mort en vacances. Donc, Charles est allé les retrouver, et ils ont ramené le corps à Alexandrie. Donc, voilà la photo de l'image de la couverture. Alors, vous avez les trois enfants Ayoub. À gauche, vous avez Georges, qui a l'air d'être plus âgé parce qu'il est plus grand, mais c'est le plus jeune. Vous avez à droite Charles et l'aîné Joséphine. J'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup le regard intériorisé de Charles. Voilà, il réfléchit à son avenir. Alors, Charles Ayoub, il a passé toute sa scolarité au collège Saint-François-Xavier. Il a échangé une très abondante correspondance avec quelques pères, en particulier le père Poussel et le père Henri Verne. Alors, Henri Verne avait l'intention de l'entraîner vers de devenir jésuite, mais peut-être que Charles Ayoub y a pensé, mais il n'a pas donné suite. Donc, vous avez une représentation ici du collège des pères jésuites à Alexandrie, le collège Saint-François-Xavier. Alors, le collège des jésuites, il a commencé en 1883 et en 1889, il avait 129 élèves. Il a fermé ses portes en tant que collège en 1919-1920. Le Victoria College anglophone et le lycée français ont pris la relève, deux établissements qui correspondaient plus à l'esprit alexandrin parce qu'on a reproché aux jésuites leur prosélytisme et leur intolérance religieuse. Ici, vous avez le cours de chimie, donc au collège des jésuites. À gauche, Devant, vous avez Charles Ayoub, et qui donne son cours, c'est le père Garnier. Le père Garnier était un Français qui est parti faire la guerre de 14 et qui est mort à Aix-Noulette, dans le nord de la France. On a une ou deux cartes postales qu'il a écrites à Charles pendant qu'il était à l'armée. Alors, les jésuites, comme au Caire, il faisait très chaud, trop chaud. Ils avaient une maison de campagne dans la campagne d'Alexandrie. À l'époque, c'était la campagne. Maintenant, c'est plus la campagne d'Alexandrie. C'est intégré dans Alexandrie. C'est à Sidi Gaber. Alors, ils avaient une propriété pour reposer les chaleurs kérotes. Alors ici, c'est la retraite de philosophie. Tous les noms sont indiqués derrière, donc on connaît tous les noms. Et Charles Ayoub est ici devant à droite, avec un air un peu penché. Et là, vous avez le père Ferchat. Alors, Charles Ayoub a été... je vais quand même un peu... Alors, après le baccalauréat, il a entrepris des études de droit. Charles Ayoub. Il a obtenu son diplôme français et égyptien. Et dès avant la fin des études, il a demandé et obtenu une admission comme stagiaire au contentieux de l'État à Alexandrie. C'était en février 1915, donc il avait à peine 18 ans. Et jusqu'en 1948, il a gravi tous les échelons du service. Il est arrivé comme stagiaire, donc il a obtenu le titre de B en 1936, celui de conseiller royal adjoint en 1939. Et en 1945, il est conseiller royal. Et en 1947, il est chef du contentieux. Et ici, vous voyez le chef du contentieux au milieu de ses conseillers. Cette photo est dans l'ancien cabinet d'avocat de Charles Ayoub, au 2 de la rue Fouade. Donc juste à côté de la photo que je vous ai montré, le Baudreau, c'est à côté de ça. Alors... Excusez-moi, je m'embrouille un peu, mais ça va aller. Donc, avec Charles Ayoub, une question s'est imposée. Comment se situer une personnalité telle que la sienne par rapport à l'Égypte et à la France? Comment intégrait-il les différents éléments dont il avait construit et dont il était pétri? Tout était contradiction, un prénom français, un nom oriental. Sa langue naturelle était le français. Il a pris l'arabe comme une langue étrangère. Sa religion catholique dans un pays musulman. L'éducation chez les jésuites, mais il portait le tarbouche et les guêtres. Le cosmopolitisme n'était pas seulement au cœur des villes, il pouvait être au cœur des hommes, qu'il était au fond d'eux-mêmes le sentiment d'appartenance à une classe sociale, à une religion, à un pays ou à quelque chose de plus grand, une éthique. Les années qui suivirent la Première Guerre mondiale furent des années de lutte contre l'occupation anglaise. Ici, nous voyons une représentation du 13 novembre 1918, à la sortie de la guerre. Une délégation conduite par Saad Zarloul se rendit auprès du haut commissaire britannique de l'Égypte, en Égypte, pour obtenir l'autorisation d'aller plaider leur cause pour l'indépendance égyptienne devant la conférence de la paix. Ça leur a été refusé. Non seulement ça leur a été refusé, mais les trois leaders de la délégation, le WAFT, furent arrêtés et exilés. Cela a déclenché dans tout le pays des émeutes. Et en 1919, ça a permis à Saad Zarloul, en 1919, il a été libéré et il s'est présenté à la conférence de la paix, mais il n'a pas obtenu l'indépendance et au contraire, le protectorat fut confirmé. Alors, les manifestations anti-britanniques atteignirent le point culminant dans les journées du 23, 24 et 25 mai 1921. Qui firent des centaines de morts en Égypte et à Alexandrie. Finalement, en 1922, le protectorat était aboli et l'Égypte était un État souverain et indépendant. Et le calife Fouad Ier prit le titre de roi. Mais cette reconnaissance n'était pas pure et simple. Les aménagements qui lui furent associés furent la cause de la continuation de la lutte anti-britannique. Donc ça, c'est une image que j'ai trouvée au Souk El Goma. Donc c'est Zarloul avec les deux personnages de la délégation. Le parti s'appelle le WAFT parce que ça s'appelle le WAFT, ça veut dire délégation. Et c'est le parti de la délégation qui était devenu demander l'indépendance. Alors ça, c'est Charles Ayoub au milieu de ses collègues. Je ne connais pas les noms de ses collègues, mais j'aime beaucoup cette image parce que je trouve qu'elle est très représentative de la courtoisie, de l'intelligence des relations entre... Et toute la vie de Charles Ayoub a été une vie de courtoisie, de lutte et de gentillesse, et je trouve que c'est très représentatif. Alors... Les années qui suivirent la Première Guerre mondiale furent des années de mise en place féconde sur le plan politique et législatif. Il fallait trouver des ressources, créer des taxes, instituer l'impôt sur le revenu, définir la notion de service public. Il y eut l'affaire des tramways d'Alexandrie, qui était un procès très attendu, dont Charles Ayoub était l'avocat, qui permit de définir et d'approfondir la notion de service public. Parce que en pays musulman, les pays musulmans n'avaient pas de tradition à cet égard. Donc l'affaire fut perdue, mais un an plus tard, une loi vint contrecarrer cette jurisprudence et redonner à l'État de larges prérogatives. Car au-delà d'un simple procès, il s'agissait de défendre les principes de répartition des pouvoirs entre les pouvoirs publics et les concessionnaires, et ce, en faveur de l'État. C'était la revanche de la vision de Charles Ayoub. Mais ce qui a été le moment charnière de la conquête de son autonomie par l'Égypte a été le procès contre la caisse de la dette. Nous avons déjà parlé de cet endettement de l'Égypte qui avait été à l'origine de la création de la caisse de la dette. Elle était la justification d'un contrôle et la mainmise politique sur les affaires du pays. C'était un colonialisme qui ne disait pas son nom. La situation s'était assainie et pourtant, en septembre 1931, la livre anglaise, jusque-là parangon de régularité, opère une dévaluation qui amplifie la chute réelle du pouvoir d'achat en sterling dans le monde. Or, la livre égyptienne est ajustée à la livre sterling, et pour l'Égypte, la chute de sa devise n'est due qu'à aucune difficulté financière, interne ou externe. Elle n'est qu'une conséquence de la mauvaise situation financière d'autres pays. Le gouvernement égyptien décide de ne plus payer en or, mais en livre papier. Alors, les commissaires de la caisse de la dette, Français, Italiens et Britanniques, intentent un procès au gouvernement devant les tribunaux mixtes. L'affaire a provoqué un grand émoi dans l'opinion publique d'Égypte. Le gouvernement fit plaider le défaut de juridiction fondé sur la souveraineté de l'État. J'ai du mal à parler, non, j'ai pas d'eau et je commence à bafouiller. Cette thèse fut rejetée par les premiers juges. Les tribunaux mixtes du Caire donnaient raison à la caisse de la dette. Tout le pays était catastrophé. Et le gouvernement refusa tout paiement en or. La cour d'appel mixte en 1936 cassa le jugement du Caire, au grand soulagement et à la joie ressentie par le pays qui l'a délivré d'une charge des plus lourdes. Jacques Berck note « La justice, bien qu'émanant des tribunaux mixtes, c'est-à-dire dominée par un personnel et des concepts occidentaux, finit par prendre fait et cause, et surtout à partir de 1935, pour la personnalité et la responsabilité du pays ». C'est là une évolution significative. Ce fut un des importants jalons de la Renaissance nationale égyptienne. Alors, c'est en découvrant l'éloge funèbre que Charles Ayoub avait dressé pour Abdelhamid Badawi que j'ai eu la réponse à mes questions. Car ce que disait Charles Ayoub à propos de Abdelhamid Badawi, on aurait pu le dire pour Charles Ayoub lui-même. Plein de compréhension et de bonté, il savait encourager, protéger, créer parmi ses collaborateurs, petits et grands, avec l'esprit d'initiative, le dévouement le plus absolu à l'égard de la cause publique. Il avait su résoudre les problèmes les plus ardus dans un pays en profonde mutation, dans un monde qui lui-même se transformait de fond en comble. En conclusion, je dirais, il y a eu beaucoup de livres sur Alexandrie moderne, d'abord la thèse de Robert Hilbert dont j'ai parlé, et les livres qui parlent de l'Alexandrie qui fait rêver, des histoires romancées ou des souvenirs de guerre, ou les livres de Laurence Durel, le livre de Michael Haag sur l'Alexandrie de Laurence Durel en anglais, les romans, de nombreux recueils de souvenirs, des carnets de voyage, etc. Ici, c'est un livre à entrée multiple avec un regard qui se déplace comme un drone en exploration. C'est une recherche vue de l'intérieur, à la fois par des gens ordinaires faisant partie d'une société particulière et regardée par le petit bout de la lorgnette, où l'on voit des individus dans leur vie quotidienne. Mais aussi, plus largement, elle raconte en filigrane l'histoire de l'émancipation de l'Égypte à travers la période qui va de la mainmise de l'Angleterre sur le pays en 1882 jusqu'au départ des derniers soldats britanniques en juin 1956. Je voudrais dire aussi à toutes les personnes qui s'intéressent à Alexandrie l'Antique, la médiévale ou l'Alexandrie moderne, d'aller sur le site du CEALEX. Le CEALEX a numérisé et continue de numériser des milliers de documents qui sont d'accès libre. C'est une mine d'informations inépuisable. Il y a une chose que l'on perçoit bien en travaillant sur ce genre de sources, c'est ce qui est en train de disparaître, l'écrit. Il y aura toujours une différence entre la réception d'un manuscrit dont on ressent l'écriture, la couleur de l'encre, l'épaisseur du papier, le jaunissement du temps et le texte imprimé. Toutes ces petites sensations subtiles qui surimpressionnent ce qu'on est en train de déchiffrer, cela donne de la vie, de la chair, du concret à la recherche. Rencontrer une écriture, c'est comme découvrir quelqu'un, cela donne une connaissance intuitive et pourquoi pas des affects. Je me suis tellement immergée pendant des années dans ces écritures, dans la compagnie de ces personnages, que j'ai eu l'impression d'en faire partie et de les connaître pour de vrai. C'était réellement une expérience et j'étais devenue au milieu d'eux, dans une identité temporelle, de plein pied, sans cette distance nécessaire, mais au contraire en empathie. Je vivais comme une vie parallèle. Aujourd'hui, ces heures passées, ces lettres lues, ces documents ressassés, ces photographies disséquées sont devenues un livre. J'ai repris ma place au XXIe siècle, je les ai laissés derrière moi. J'espère qu'ils continueront à vivre avec les lecteurs qui s'intéresseront à eux et que j'aurai accompli la tâche que je me suis assignée, ne pas trahir, ne pas embellir, transmettre et donner à tous ces destins croisés, selon l'expression de Paul Ricoeur, un tombeau scripturaire. Merci.